France Musique.
Un musicien est l'une de ses œuvres très souvent utilisées via le sample, l'échantillonnage sans l'accord des endroits qui sont donc à l'affût. C'est la musique de François Droubet, le compositeur de musique de film, mort très jeune en 1975. Il va d'ailleurs recevoir à titre posthume le premier César de meilleure musique de film. C'était en 1976 pour Le Vieux Fusil. On parle beaucoup des Césars ces jours-ci, mais sa composition utilisée sans l'accord de ses héritiers, c'est celle de Dernier domicile connu, Super Polar de José Giovanni. Cette musique, je suis quasiment sûr que vous l'avez déjà entendue dans sa version originale ou bien dans des versions détournées. La musique de Dernier domicile connu, Marlène Jobert, Lino Ventura, film de José Giovanni, musique de François Droubet. Il est 8h15.
France Musique, vous allez là.
Je triche, il est 8h17. Comment mettre en scène un opéra aussi populaire que Tosca? Voilà la question que s'est posée ces derniers mois David Bobet. Bonjour.
Bonjour.
David Bobet en direct des studios de France Bleu Normandie à Rouen. Que l'on remercie pour cette liaison technique. Tosca de Puccini, c'était l'opéra de Rouen, Normandie, au Théâtre des Arts. À partir de mercredi jusqu'au 12 mars, ce sera ensuite au Théâtre de Caen jusqu'en juin. David Bobet, si je ne me trompe pas, vous qui dirigez depuis 2013 le Centre Dramatique National de Normandie-Rouen, c'est votre quatrième incursion dans l'opéra.
C'est ça, oui.
The Rex Progress de Stravinsky, La Nonne Sanglante à nos heures. On peut aussi ajouter ce que vous aviez fait autour de Handel, Louée soit-elle. Là, dans Tosca, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette histoire d'amour?
Eh bien, au-delà de l'histoire de l'amour, c'est en quoi cette histoire est révélatrice d'un contexte politique. En fait, le livret nous propose encore aujourd'hui une œuvre qui résonne très très fort. C'est-à-dire qu'on est là face à un artiste peintre, à une artiste chanteuse, et qui les place à un moment de grand basculement politique avec l'arrivée de Scarpia, avec la chute de la République et l'arrivée d'un nouveau système autoritaire. Et ça pose la question de la place des artistes lors de ces grands changements radicaux, et c'est presque une étude de comment l'histoire fait des individus lambda finalement des résistants. Il y a de ça, moi, je crois, qui m'a beaucoup intéressé dans ce livret.
Comment Tosca peut résonner avec l'actualité, avec le monde d'aujourd'hui? Comment vous l'avez mis dans notre monde d'aujourd'hui, si c'est le cas, sur scène, puisqu'on n'a pas encore vu, ça commence après-demain?
Mais quand je monte un opéra, c'est comme quand je vais chercher un texte du grand répertoire au théâtre. Je me pose pas forcément la question de la modernisation de l'œuvre, mais plutôt d'essayer de voir comment ce qui a été écrit avant et ailleurs peut trouver des clés de résonance avec l'époque contemporaine pour que le fait de mettre en scène ces œuvres-là aujourd'hui puisse être nécessaire. Et là, il y a clairement l'étude de la domination. de la domination des hommes entre eux, de la domination politique, de la domination symbolique, de la façon dont on force un territoire, dont on force un territoire symbolique, et de la question, évidemment, entre Scarpia et Tosca, de la façon dont on force le corps des femmes. Et dans les périodes comme ça de conflits, de bascule politique, le corps des femmes est toujours un instrument de pouvoir, une façon d'affirmer un message adressé d'un patriarcat dominant à un patriarcat dominé, un message clair, et puis une façon d'asseoir son pouvoir et effectivement sa domination. Ça ne peut que résonner aujourd'hui.
David Bobet, si je ne m'abuse, Tosca, c'est la seule femme de l'opéra sur scène. Est-ce que c'est une Tosca post-MeToo, où là, pour le coup, je m'égare dans des liens avec l'actualité qui ne sont pas forcément heureux ou intelligents à faire.
Mais en fait, l'opéra, c'est, vous le savez, j'en suis sûr, mieux que personne, toujours un art contemporain. Parce que la musique seule d'un opéra ne peut suffire à en rendre compte, ou la lecture du livret seule ne peut suffire à comprendre ce qui se joue dans un opéra. La musique est écrite pour être dépliée, déployée au plateau, mise en situation par des interprètes, acteurs et actrices qui sont aussi au-delà de leur talent de musicien, qui sont des artistes interprètes, et ça demande à être mis en scène. Et si ça demande à être mis en scène, c'est toujours fait par des hommes et des femmes qui vivent aujourd'hui et maintenant et qui sont forcément influencés par le contexte qui est le leur. Donc forcément que ça résonne particulièrement aujourd'hui. Mais je crois que l'étude de la résistance, de ce qui fait passer de Tosca, célèbre cantatrice, à femme résistante politique et résistante à l'agression sexuelle qui est la sienne, c'est déjà dans le livret.
David Bobet, qu'est-ce que vous avez souhaité faire en termes de scénographie, de décor sur cette Tosca? Qu'est-ce qu'on pourra voir avec nos yeux?
Le décor me plaît beaucoup. Hein. Les services techniques de l'Opéra de Rouen sont juste des virtuoses, comme souvent à l'Opéra. Le premier acte, j'ai pas voulu me débarrasser du décor d'église, parce qu'il est très présent dans le livret, mais j'en ai fait une église qui serait désacralisée, comme on en connaît aujourd'hui. Une église qui pourrait accueillir une exposition d'art contemporain, et on fait de Mario Cavallaro aussi un plasticien d'aujourd'hui, qui prépare l'accrochage de son vernissage à venir. Et voilà, c'est un premier acte qui pousse l'humanité vers le haut par le rapport au spirituel, à la création, à l'amour avec Tosca. Et tout ça va être rasé par l'irruption, la pénétration concrète de l'antichambre de Scarpia, un espèce de bunker brutaliste qui va pénétrer cet espace d'église et le briser en partie. Et puis ça, c'est le deuxième acte, hein, ouais. L'acte de Scarpia, le pacte du diable, c'est une espèce d'acte plus horizontal comme ça. Et puis le troisième acte, on retrouve cet espace d'église de briques superbe, très impressionnant dans ses dimensions, qui va complètement s'exploser, s'effondrer dès les premières secondes du troisième acte. Et c'est dans un décor de ruines, dans l'ossature ouvert aux quatre vents de l'église que l'on connaissait du premier acte, que va se dérouler le drame pour un acte qui, lui, plutôt touche la chute, où tous les corps tombent. C'est ainsi que finit Tosca. Et c'est un décor, un paysage que malheureusement on connaît trop bien en Normandie, c'est un territoire qui a vécu l'occupation, et souvent les régimes les plus violents laissent toujours à peu près les mêmes paysages, que l'on soit ici ou ailleurs.
Tosca, mise en scène par David Bobet, c'était à l'Opéra de Rouen-Normandie à partir de mercredi jusqu'au 12 mars. On vous retrouvera pour cette production en juin au Théâtre de Caen avec une grande chanteuse américaine, Latonia Moore, l'orchestre de l'Opéra de Rouen-Normandie et le chœur Accentus, dirigé par Evin Goldberg-Jensen, j'espère que je prononce bien, et Tosca, Vie d'amour et Vie d'art. Vici d'Arte, extrait de Tosca de Puccini, Angela Giorgio, l'orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden, dirigé par Antonio Papano. Et c'est donc à l'Opéra de Rouen-Normandie, à l'Opéra de Rouen-Normandie, à partir de mercredi. Comme Tosca, ils vivent d'art et d'amour. C'est Mimi et Rodolphe, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulnier, en piste. Bon, c'est pas la bohème, mais c'est en piste, presque. Dès 9h, avec du très beau piano ce matin.
Avec du très beau piano, concerto pour piano de Benjamin, de Chopin par Benjamin Grosvenor, mais on pourrait presque dire que c'est deux Benjamin Grosvenor, tant il est fantaisiste dans ses concertos de Chopin. On a reçu il y a pas longtemps ceux de Yundi, mais alors ceux de Benjamin Grosvenor, je les trouve absolument incroyables. C'est plein de fantaisie, de liberté. On va ouvrir l'émission avec ceci. Et puis alors, est-ce que vous pourriez, par exemple, me citer un compositeur du Liechtenstein ?
Là, je suis totalement collé en
Je vous avoue que moi aussi, avant cette émission, j'aurais eu bien du mal. Rassurez. Et pourtant, il en existe un, Joseph Ragenberger. On va écouter sa musique. C'est d'ailleurs l'Orchestre Symphonique du Liechtenstein, qui existe aussi, qui a enregistré ce compositeur romantique. Et c'est, figurez-vous, une belle découverte dans la descendance d'un Brahms, par exemple. Et puis, l'artiste de la semaine, notre grand portrait cette semaine, c'est Hélène Ferrel, grande cantatrice américaine qui faisait de la radio, du jazz, enfin, c'était vraiment une star. Il y a eu beaucoup d'articles dans le New York Times et il y a un beau coffret qui sort, donc on va y passer toute la semaine à l'écouter.
Une découverte à 10h30 dans la série des grands interprètes de la musique classique. À tout à l'heure, 9h, Rodolphe. Hélène Farrell, comme ça, on pense. Hélène Farrell.
Je pense, ouais, vous avez l'air de marcher. comme ça.
Mais la voici ce matin, elle cherche un garçon, Looking for a Boy, une chanson de George Gershwin.
Just a little girl who's looking for a little boy, who's looking for a girl to love. Tell me, please, where can he be? The loving he will bring to me, the harmony I'm dreaming of. It'll be goodbye. Just a little girl who's looking for a little boy, who's looking for a girl.
me, please, where can he be? The loving he who'll bring to me, the harmony I'm dreaming of. It'll be goodbye, I know, to my tale of woe, when he says, hello, man,
George et Ira Gershwin, chanson de 1925, Looking for a Boy. C'était Hélène Farrell. Vous ne connaissez pas cette voix. Vous allez la découvrir tout au long de la semaine dans Piste à 10h30 sur France Musique. Il est 8h31.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique. Jean-Baptiste Urbain.
Bienvenue en mars et bienvenue à Momo Kodama. Bonjour, Mossi Mossi.
Bonjour.
Deux concerts à Paris en ce mois de mars. L'un vendredi, ce sera à l'auditorium du fabuleux musée Guimet, Musée National des Arts Asiatiques. Et puis l'autre concert, ce sera un peu plus tard, le 17 mars à la Scala Paris, concert autour de la musique de John Adams à quatre mains avec votre sœur Marie Kodama. Momo Kodama, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes né au Japon, à Osaka, oui. Mais vous êtes bien vite arrivé en Europe à l'âge de 1 an, l'Allemagne, et puis depuis plus de 35 ans, hein, grosso modo, vous vivez en France. Vous vous sentez totalement française, japonaise ou de culture mêlée ?
Je sens les deux, mais c'est un très beau mélange parce qu'il y a quelque chose qui se retrouve dans les deux cultures. Et en plus, j'ai passé un peu mon enfance aussi en Allemagne, donc c'est vraiment un drôle de mélange. Mais c'est vrai, par exemple, le programme que je vais faire au musée de Guimet, c'est vraiment...
Comme un portrait.
Très, oui, je suis très très heureuse de pouvoir faire cette carte blanche. Parce que, voilà, c'est Ludmila Berlinskaya qui fête cette saison.
Et une grande pianiste russe qu'on a reçue ici récemment.
Et qui m'a donné carte blanche. Donc j'ai profité pour inviter une flûtiste de Shakuhachi qui va faire des chants de moines zen à la flûte. Et moi, je vais faire de Ravel, de Debussy. Donc ça sera un dialogue entre ces deux cultures. Et ça tombe le jour de mon anniversaire. Donc tout était un peu... C'est une journée spéciale.
Vendredi.
Voilà.
D'accord.
Donc je suis très heureuse de pouvoir partager ça avec le public.
Presque bon anniversaire. On dit comment bon anniversaire en japonais ?
O tanjoubi omedetou gozaimasu.
Je ne vais pas répéter, je suis désolée. Vous revenez d'ailleurs du Japon, Kodama. Vous avez pu donner tous vos concerts malgré l'épidémie de coronavirus ?
Voilà, c'était un peu les derniers concerts qui se sont faits. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'annulent, malheureusement. Et voilà, on espère tous que ça va trouver une solution.
Comment vous avez vécu là-bas ce contexte extrêmement particulier ?
Au mois de février, ce n'était pas encore à ce point exposé. Donc les concerts étaient pleins, tout le monde venait et la musique était très présente.
Les concerts sont toujours pleins au Japon ?
Oui.
C'est l'image qu'on a, c'est un cliché ?
Non, les gens sont très curieux. On a joué la sonate de percussion de piano et de percussion de Bartok qui est pas très difficile, mais qui n'est pas au premier abord un compositeur très facile, entre guillemets.
C'est pas Mozart.
Mais les gens étaient curieux, ils étaient comme après un concert de rock. Et quand on voit ça et quand on dit que les Japonais ne montrent pas les sentiments, je pense que ça, c'est vraiment un cliché. Et ça se voit aussi avec les chants de moines de Shakuhachi qu'on va écouter. C'est très émotionnel, très fort. Et voilà. Et au musée Guimet, je suis d'autant plus heureuse parce que j'ai l'honneur de faire une création aussi de compositeur Christian Rivet.
Également guitariste.
Également guitariste, oui. Voilà.
Vous avez besoin physique d'aller régulièrement au Japon, même si vous n'y avez vécu qu'un an, vous y êtes né.
Oui, j'ai passé juste mes 12 premiers mois. Mais n'empêche, je me sens pas du tout étrangère quand je vais au Japon. Je retrouve un peu mes racines. Et quand je reviens en France, je me sens beaucoup chez moi. Donc, je pense que pour toute personne, surtout nous qui sommes un peu dans toutes les cultures, avec tous les compositeurs qu'on interprète et qu'on voyage beaucoup, c'est bien d'avoir quelque part ses racines pour pouvoir être bien partout, je pense.
On vous écoutera, Momo Kodama, tout à l'heure jouer de la musique japonaise, mais vous voici dans la musique de l'un de vos compositeurs de cœur, qui aimait d'ailleurs les estampes d'Okusai, me semble-t-il, c'est Claude Debussy. Claude Debussy, la seconde arabesque en sol majeur, enregistrée par notre invité ce matin, Momo Kodama. C'est vrai que Debussy aimait les estampes de Okusai, notamment la mer.
La mer, qui était la couverture de sa partition, première édition. Et je crois qu'il collectionnait beaucoup de porcelaine, beaucoup d'estampes aussi à la maison.
Il y a quelque chose d'oriental dans certaines musiques de Debussy, où là on tombe à nouveau dans les clichés.
Je crois qu'il y a quelque chose, un rapport à la nature qui est très proche. C'est un peu le mouvement, c'est pas le mouvement de battement de cœur, il y a quelque chose comme ça de Bessie aussi, les impressions comme on dit. Et au Japon aussi, la nature elle est très sacrée, et il y a cet rapport à la nature, au temps, à l'espace, qui je crois que qui rapproche beaucoup Debussy et la culture japonaise.
Cette musique de Debussy, mais aussi Ravel, que vous avez enregistrée, qui vous en a donné le goût? Quels sont vos premiers souvenirs de cette musique?
Je crois que quand comme j'ai grandi en France et j'ai fait mes études ici au Conservatoire supérieur de Paris. Et donc c'était quelque chose qui était très naturel. C'est pas même pas une obligation, mais ça faisait partie de notre éducation musicale.
Tout simplement. Vous étiez en classe, il y avait
c'était
Alexandre Tarot, par exemple.
Voilà, c'est ça. Et c'était plus cette musique que la musique de Schoenberg, par exemple. Ouais. Voilà. Et après, bien sûr, quand on devient adulte, on a le choix de plus jouer cette musique. Mais cette musique, elle est toujours restée très proche. Et je pense qu'il y a quelque part une logique qui était inconsciente, mais parce que j'avais aussi beaucoup joué du Chopin et avant du Bach. Et je crois qu'il y a quelque chose comme une filiation. Que je me suis rendu compte assez récemment, voilà, et ça va jusqu'à la création, et j'ai fait beaucoup de créations de compositeurs japonais, mais aussi français, comme Rodolphe Bruno Blumier, par exemple, dont on le connaît plus comme...
Qui est au micro, mais qui est aussi compositeur.
Voilà, qui est à l'origine un compositeur dont on a fait une création à deux pianos, là, à Montréal, qui a un grand succès, parce que la salle était debout. Voilà, donc... inconsciemment, il y a quand même un lien entre les compositeurs qui me sont restés proches.
Et puis aussi Messiaen, et puis aussi Boulez.
Voilà, c'est ça, oui. Donc finalement, c'est beaucoup de choses. Bien sûr, après, on fait des petits écarts, on fait un tout petit peu de Rachmaninov, on fait un tout petit peu de Schoenberg, on va... Voilà, mais c'est le noyau de mon répertoire.
Alors Debussy et Ravel sont deux compositeurs majeurs du XXe siècle aussi pour un certain John Adams. Il nous le disait ici à ce micro mercredi dernier. D'ailleurs, on pourrait écouter le concert qu'il a dirigé vendredi dernier ici à la Maison de la Radio avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France où il dirigeait son orchestration des chants de Baudelaire, texte de Verlaine de Claude Debussy. Donc, lien aussi entre... Debussy, Ravel, John Adams.
Alors non,
John Adams, ce sera un programme du 17 mars.
Alors ça, c'est une vraie découverte. C'est quelque chose de très récent et on est très ravis de vraiment intégrer ce compositeur parce que quand est venu ce programme à la Scala, c'est qu'on a joué le Hallelujah Junction de John Adams pour deux pianos au concert d'ouverture de la nouvelle salle. Scala, et voilà, de là, c'est venu l'idée de faire tout un programme autour de John Adams. Donc, on connaît, comme vous dites, plus ses opéras, mais un peu moins les choses.
Il n'y a pas énormément de choses pour piano.
Il n'y a pas beaucoup de choses. Donc, on joue un peu Hallelujah Junction, qui est pour du piano, une œuvre vraiment majeure. Et puis, on voulait aussi présenter son fils.
Samuel Adams.
Samuel Adams, que vraiment on connaît très peu encore, je crois, mais qui a écrit des choses. Complètement différent, parce que c'est pas toujours évident d'avoir le même nom et de faire la même profession que...
De faire un prénom, comme
voilà, et donc il a vraiment trouvé son univers et on est très content aussi de présenter son fils, donc c'est John Adams et la musique américaine et la famille, voilà. C'est
un peu de Samuel Barber aussi au programme.
Samuel Barber, il y a Steve Reich aussi, on va faire le clapping music. C'est un programme d'une heure où c'est pour nous vraiment une coupure parce que c'est une culture complètement différente, très optimiste et très solaire et qui fait un peu une coupure avec tout ce qu'il y avait avant. On a vraiment l'impression qu'il veut se détacher de Schoenberg, toutes les complexités harmoniques qu'il y avait au début de 20e siècle et c'est, donc du coup, ça devient très tonal, un retour aux origines, mais voilà, ça sonne très facile, mais c'est très difficile à jouer.
John Adams au programme le 17 mars de ce concert à la Scala Paris, Momo et Marie Kodama. Bon, on écoute un peu de John Adams, on prolonge notre semaine John Adams sur France Musique, avec notamment hier soir le Carrefour de la Création à réécouter. Ici, c'est Lollapalooza, cette symphonie avec l'orchestre Halle, dirigé par un certain... Kent Nagano.
Thank you.
Quelques mesures de Lollapalooza de Judd Adams, l'orchestre à le diriger par Kent Nagano. Je disais un certain Kent Nagano parce qu'il est dans la famille Momo Kodama.
Oui, c'est mon beau-frère, effectivement.
C'est le mari de votre sœur, voilà. Marie Kodama, avec laquelle vous jouerez le 17 mars à la Scala Paris. D'ailleurs, vous avez déjà joué dans cette salle. C'est un public un peu différent. Moi, j'y suis allé ce week-end, il y avait des Schubertiades. C'est un public plus jeune qui s'affranchit de certains codes. Je pense par exemple au moment où les gens applaudissent. Et est-ce qu'il y a un public assez particulier, assez différent pour la musique, les musiques contemporaines ?
Oui, je crois que c'est un peu l'idée de cette salle, que les gens peuvent venir de tout âge, jeunes ou moins jeunes, très spontanés, découvrir la création. Et c'est très important, la création, parce que c'est ce qui va devenir des classiques plus tard. Donc, et puis ça reflète un peu l'époque où on vit, soit c'est en contradiction, soit c'est en phase avec ce qu'on vit. Et effectivement, on voit un public qui découvre avec le même curiosité, aussi bien la musique de John Adams que les choses qui se créent maintenant, que Schubert ou Mozart. Donc oui, c'est magnifique et ça donne un accès à la musique. Que pas juste facile, parce que la musique elle reste très profonde, mais sans peur, sans préjugés, un peu comme un enfant, parce que l'enfant quand il vient au concert, il écoute, je me souviens, ils ont écouté Hosokawa.
Les enfants sont souvent très réceptifs à la musique contemporaine.
Très silencieux quand il y a un silence, peut-être moins silencieux quand il y a beaucoup de forte. Et c'est un peu avec ce même esprit qu'on vient écouter, et je pense que ça, il faut... Pour moi, c'est important, même si on est très mélomane, d'avoir cette ouverture. Et puis même pour nous, professionnels, c'est important aussi d'avoir cette fraîcheur envers la musique. Et donc, c'est très inspirant d'avoir un public ainsi.
Momo Kodama, quel plaisir particulier il y a quand un compositeur est vivant et qu'on peut échanger avec lui sur la musique. Vous le faites beaucoup, vous jouez beaucoup de musique d'aujourd'hui.
Oui.
Vous dialoguez avec les compositeurs ?
Oui, énormément. Et c'est un privilège de pouvoir assister à la création, parce que, bien sûr, comme on dit très, très souvent, on ne peut pas poser toutes ces questions à Schubert et à Mozart et voilà, Bach. Donc on peut, et c'est ce qui est merveilleux, c'est non seulement de faire la création, mais après que l'œuvre va marcher tout seul, va faire son monde. Alors moi, normalement, quand je fais une création, je la rejoue beaucoup, beaucoup de fois.
Pour la faire vivre.
Pour la faire vivre.
Pas juste la création, et puis après, on voilà, met dans un tiroir.
Et je la joue le plus que possible, donc voilà. Et après, d'autres pianistes reprennent l'œuvre. Et c'est comme ça qu'elle rentre vraiment dans l'histoire, dans le répertoire. Et c'est aussi une façon de le transmettre à la génération suivante. Et avec beaucoup de... Parce que la chose qui est écrite sur papier, elle existe. Mais après, en fonction de chaque interprète, je pense qu'elle prend d'autres formes, d'autres façons de voir la partition. Et ça rajoute aussi à cette chose qui est sur papier. Et ça devient vivant. Et... je pense que c'est pour ça, c'est très important de pas juste faire la création pour faire la création, mais quelque chose qu'on trouve beau, qu'on trouve intéressant, et que voilà, c'est la même chose que jouer de Mozart, ou avec cette même conviction de vouloir le présenter au public. Et on peut aussi quelquefois, bien sûr, c'est un luxe quand le compositeur peut venir et parler avant le concert, pour un peu
et
donner des clés.
Et vous dire après si c'était bien ou pas, si ça correspondait à ce qui... Vous parlez de privilège, Momo Kodama, mais voilà. Il y a aussi une responsabilité, parfois une petite pression sur les épaules, quand on crée, comme ce sera le cas vendredi, l'œuvre de Christian Rivet ou
Zé
Guillemets à
Paris. Oui, il y a un poids, mais je pense que c'est... Quand on joue Mozart aussi, on a beaucoup de responsabilité d'essayer de transmettre ça. Donc, je pense que de ce point-là, oui. Mais je pense que c'est bien de pouvoir aussi un peu parler et de le mélanger aussi dans un contexte. Pas juste jouer une nouvelle œuvre, mais peut-être la mettre dans l'histoire de la musique, comment elle est arrivée, cette musique, ou de la mettre dans un programme avec un contexte qui fait que c'est pas quelque chose de très spécial, à part.
au programme du concert au Musée Guimet ce vendredi pour votre anniversaire. Toshio Osokawa,
oui.
Qui est ce compositeur japonais. Lui, par exemple, vous dialoguez avec lui ?
Beaucoup, oui. Et je suis très heureuse parce qu'il n'aimait pas du tout l'instrument de piano avant. Et il a maintenant écrit donc ce concerto, Lotus Under the Moonlight, en 2006. Et depuis, il a beaucoup, aimé écrire pour le piano avec toutes ses possibilités. Et donc, il a écrit il a écrit ses études, il a écrit un quatuor avec piano. Et donc, le répertoire de piano s'est agrandi, s'est enrichi depuis 15 ans. De ses compositions.
Quelques mesures.
Oui.
Un extrait de ce concerto pour piano et orchestre de Toshio Osokawa, Lotus Under the Moonlight. C'était l'orchestre royal national d'Écosse, dirigé par Ewan Markle. Et c'était vous, Momo Kodama, au piano. D'ailleurs, vous allez bientôt sortir un disque qui croise Osokawa et Mozart. Ça sortira prochainement ?
Oui, c'est ça. Ça sortira en fin de l'année pour ECM. Voilà, c'est un concert qui était pris en 2008.
Il a mis son temps pour sortir.
Voilà. Qui était un peu dans le tiroir et que je trouvais que c'était dommage que ça reste dans le tiroir, donc parce qu'il était tout prêt à sortir. C'est en couplage donc avec le concerto Köchel 488 de Mozart et ce concerto de Osokawa, voilà, et en hommage au deuxième mouvement en fa dièse mineur, très touchant, de ce concerto, et c'est avec l'orchestre de chambre de Mito et Seiji Ozawa au qui dirige.
Immense pianiste, immense chef japonais. Pour finir, je voudrais qu'on revienne à ce duo à quatre mains avec Marie, votre sœur. Vous serez le 17 mars en concert. C'est elle qui vous a donné envie de faire du piano ?
Oui, entre autres. Et puis c'était toujours dans ma famille parce que ma mère enseignait le piano. Donc c'était un peu pour nous, pour comme brosser les dents, comme c'était un peu très naturel. Et voilà, c'est resté. Le piano est resté dans ma vie jusqu'à aujourd'hui.
Très naturel aussi de jouer ensemble, c'est plus facile ou parfois c'est plus dur ? Est-ce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde ?
Oui, on est deux sœurs, alors vraiment les répétitions, c'est très enflammé. On se dit des choses sans filtre entre deux sœurs.
En japonais, vous parlez japonais ?
On parle japonais, il y a des partitions parfois qui volent un peu dans tous les sens. Mais on s'entend tellement bien.
On ne vous imagine pas du tout comme ça.
Et voilà, on arrive à se deviner sur scène avant même que la personne fasse la chose. Donc ça reste toujours très, très agréable. Et donc on se dit, avant le concert, quelquefois on se dit plus jamais. Et puis après le concert, on se dit, oui, on va refaire parce que c'était tellement inspirant d'être sur scène. C'est vraiment très spécial de jouer avec sa propre sœur.
Les partitions ne voleront pas sur scène le 17 mars à la Scala Paris pour découvrir l'autre visage de Momo Kadama avec sa sœur Marie. Concert autour de la musique de John Adams. Vendredi, bon anniversaire au Musée Guimet à Paris. Merveilleux musée d'ailleurs, hein,
oui,
pour ceux qui ne connaissent
oui.
pas. C'est un cadre absolument,
absolument
à part.
Donc le programme est vraiment concocté pour ce musée avec Katsura Création donc, qui va jouer au Shakuhachi.
Oui.
Voilà, Katsura.
Et puis, vous serez le 3 avril aussi à Saint-Émilion avec Laurent Corsia dans le cadre des Grandes Heures de Saint-Émilion. Vous êtes plus Bordeaux ou Saké ?
Oh, ça c'est un choix difficile, mais ça c'est mes deux cultures, donc j'adore les deux.
Allez, on se quitte avec la Belle au Bois Dormant, deux Belles au Bois Dormant, Marie et Momo Kodama. Un extrait de La Belle au Bois Dormant, cette réduction pour quatre mains, musique de Tchaïkovski, Marie et Momo Kodama au piano. Elles seront le 17 mars à la Scala Paris.
À réécouter sur francemusique.fr.